ville musulmane. Ah, c'est chiant ça.
Oui, désolé.
Pas grave. Mais les populations civiles musulmanes restent en Espagne et elles vont faire l'objet d'efforts d'évangélisation. Bon, c'est pas mon sujet de ce soir, mais je peux vous dire que voilà, le catéchisme a été traduit en arabe. On a tout fait pour essayer de traduire simplement, parce que bon, comme les Espagnols fréquentaient les musulmans depuis 8 siècles, il n'y avait pas d'effort culturel très important à faire, les peuples se connaissaient bien, c'était un effort de traduction surtout. Bon, ça a échoué, hein, ça a échoué. Les 300 000 musulmans qui restaient en Espagne ont été chassés, expulsés, tous en 1609. Ce qui est notable quand même, c'est que les Juifs, eux, ont été expulsés entièrement dès 1492. Ils n'ont pas joui de la même patience que les musulmans, notamment parce que les Juifs ont favorisé l'invasion musulmane de l'Espagne, parce qu'ils se jugeaient maltraités par les chrétiens espagnols et ils pensaient être mieux traités par les musulmans. Et puis ils ont énormément collaboré aussi avec l'islam, hein. Il y a eu des gouverneurs juifs de royaumes musulmans en Espagne. Donc voilà, c'est ça, c'est un sujet qui mérite d'être creusé parce que c'est un petit peu ça peut être pour nous une anomalie historique. On ne se rend pas trop compte de ça parce qu'on a des origines spirituellement évidemment juives. Donc on se dit qu'on est plus proche d'eux que des musulmans. Et je ne dis pas que nous le sommes plus des musulmans, bien sûr. Mais voilà un point, à mon avis, historique intéressant à creuser. Bon, donc l'Espagne qui évangélise l'Amérique, c'est une Espagne au sommet de sa gloire. C'est une Espagne où souffle encore l'espoir et le rêve des croisades. C'est une Espagne qui voit dans les grandes découvertes une nouvelle forme de croisade, une Espagne qui ne sait pas d'ailleurs qu'elle va découvrir un nouveau continent, une Espagne qui part à la conquête du monde pour des raisons variées, pour l'or, pour la conquête de nouveaux territoires, pour l'évangélisation, parce que le pape en 1494... C'est le traité de Tordesillas, Tordesillas, a donné aux Espagnols et aux Portugais le monde. Et en leur disant que toutes les terres découvertes sont données à l'évangélisation des Espagnols et des Portugais, avec une particularité pour les Espagnols, c'est que toute l'évangélisation du Nouveau Monde réalisée par les Espagnols et par des prêtres espagnols, par des missions, enfin, européens, enfin, parce qu'il n'y a pas que des Espagnols qui vont participer à cette évangélisation. Tous ces missionnaires religieux, je ne parle pas des laïcs, là, les religieux sont sous l'autorité du roi. C'est-à-dire que le pape délègue totalement au roi d'Espagne l'autorité sur des religieux, ce qui montre la relation de confiance extrêmement importante qu'il y avait entre Isabelle la catholique, qui est vénérable, hein, au sens de l'Église, donc nous pouvons la prier. Et d'ailleurs, son procès de canonisation est ouvert. Bon, depuis 40 ans, mais il est ouvert. Donc, relation très forte entre Isabelle la catholique, bon, moi je pense que c'est une sainte, personnalité fascinante, et la papauté. Donc, c'est une Espagne qui est au sommet de sa gloire. C'est l'Espagne de Saint Jean de la Croix, de Sainte Thérèse d'Avila, c'est l'Espagne du siècle d'or, de Velázquez, du Gréco. C'est une Espagne triomphante qui débarque en Amérique. Mais attention, justement, ce n'est pas l'Espagne, pardon, ce sont des Espagnols. Vous me direz quelle est la différence. Mais en fait, le roi n'a jamais envoyé aucun soldat en Amérique. Ce ne sont que des entreprises privées, des initiatives personnelles de conquérants qui plantent le drapeau de leur roi, qui en espèrent bien sûr une récompense, mais qui ne le font pas sur ordre du roi. Isabelle, Charles Quint, Philippe II, Philippe III, Philippe IV et compagnie n'ont jamais ordonné la conquête du moindre pouce de territoire américain aux conquistadors. Jamais. Que des initiatives personnelles payées sur leurs fonds propres. Les conquistadors sans dette. Et c'est la raison pour laquelle ils sont d'autant plus héroïques à mes yeux. Et vous allez voir qu'ils sont, enfin même si c'est pas du tout une conférence sur l'épopée des conquistadors, mais vous allez voir que les conquistadors sont à la fois des conquérants militaires, bien sûr, mais aussi des diplomates. Parce que quand on part comme Cortés, Hernán Cortés, à 500 dans un pays où il y a 10 millions de sauvages, enfin 10 millions d'habitants, il faut être diplomate. Ce sont des navigateurs, ce sont des hommes de guerre, ce sont des missionnaires. Le conquistador est le héros chrétien complet par excellence. Alors, j'ai dit le mot sauvage. Il faut savoir que dans la conquête française de l'Amérique, le mot sauvage n'est pas péjoratif. mais il n'a jamais été utilisé par les Espagnols. Le sauvage, c'est celui qui vit dans la sylve, c'est-à-dire dans la forêt. Voilà, le mot vient de là, en fait. L'expression sauvage désignée, enfin, pour les peuples primitifs, n'est pas spécialement péjoratif. Bon, donc, l'évangélisation de l'Amérique, la conquête des âmes. Vous avez forcément déjà entendu parler de ces conquistadors assoiffés de sang, qui persécutent ces pauvres Indiens innocents qui, eux, sont des modèles de pacifisme. C'est ce qu'on appelle la légende noire. La légende noire, c'est la version de l'histoire espagnole de l'Amérique racontée par les ennemis historiques de l'Espagne, c'est-à-dire les Anglais, les protestants de manière générale, donc une partie aussi des historiens français, en tout cas jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, on va un petit peu se rendre compte que tout ce discours était quand même un gros morceau de propagande et que, évidemment, il y a des pages noires dans la conquête de l'Amérique, mais comme il y a des pages noires dans la conquête de la Gaule par les Romains, comme il y a des pages noires de la conquête voilà, d'une partie de la Gaule ben, par les Gaulois, il n'y a pas toujours eu des Gaulois en Gaule. Bon, voilà, à la grande différence quand même que l'Espagne, elle, va vraiment s'interroger sur la face, sur la moralité de sa façon de conquérir l'Amérique. Ça, c'est un cas quand même incroyable. C'est la controverse de Valladolid autour de 1500. J'ai oublié la date, mais c'est la deuxième. Ouais, 1550, c'est ça. Au mi-temps du XVIe siècle, l'Espagne va quand même arrêter les conquêtes et dire, bon, est-ce que ce qu'on fait est vraiment conforme à ce que le bon Dieu attend de nous et à la doctrine chrétienne? Bon, j'y reviendrai en conclusion, mais c'est déjà important de le savoir. Bon, quelles sont les instructions des rois catholiques, c'est-à-dire Ferdinand et Isabelle, qui ont lancé, enfin, qui ont plutôt laissé partir Christophe Colomb? Quelles sont leurs instructions? Et ça, c'est très, très, très important. Quelles sont les instructions qu'ils ont données aux missionnaires? Eh bien, bon, il faut savoir que Christophe Colomb était quelqu'un qui était, comment dire, très sûr de lui-même, hein. Il réclamait 10% de toutes les richesses trouvées ou qu'on pourrait commercialiser entre l'Amérique et l'Espagne à compter de la découverte. Il se voulait aussi vice-amiral, c'est-à-dire chef des mers, enfin maître de l'océan Atlantique, hein, à partir de son débarquement en Amérique. Je ne dis pas découverte parce que l'Amérique a au moins été découverte par les Vikings autour de l'an 1000 au Canada. Ils se sont installés dans l'Anse Meadows au nord-est du Canada. On a retrouvé l'emplacement exact où ils se sont installés. Ils étaient déjà au Groenland auparavant parce que le pôle nord était beaucoup plus grand, beaucoup plus enfoncé vers le sud, et donc les bateaux faisaient du cabotage et c'était facile pour les Vikings de débarquer en Amérique en suivant simplement la calotte glaciaire. Bon, bref. Donc, quelles sont les instructions d'Isabelle la catholique? C'est la base de la mission chrétienne en Amérique, donc ça, il faut le savoir. Bon, déjà, il y a eu une bulle quand même, hein. Il y a eu une bulle, donc une prise de décision du pape, la bulle Pis Fidelium de 1493, un an après le débarquement, qui demande au roi d'Espagne d'envoyer des missionnaires. Donc le pape donne l'ordre au roi catholique d'envoyer des missionnaires en Amérique. Et donc il y a une instruction donnée par les rois catholiques à Colomb. D'ailleurs, instruction, pardon, qui date de 93, mais qui date du mois de mai et pas du mois de juin. Donc les rois catholiques ont même devancé en fait le pape, qui demande que les Indiens soient très préparés pour se convertir. Donc il faut les catéchiser, puisqu'ils n'ont ni loi religieuse ni secte. Une secte, c'est une religion organisée, hein, c'est pas dans le sens péjoratif. L'instruction dit que les Indiens doivent être traités bien et avec amour, sans que leur soit fait le moindre ennui, de telle manière qu'ils s'établissent avec eux, de telle manière que les conquérants établissent avec les Indiens beaucoup de conversation et de familiarité. C'est la raison pour laquelle elle va libérer des Indiens qui ont été ramenés enchaînés par Colomb. Et elle va sanctionner Colomb, qui viendra demander pardon aux pieds de la reine Isabelle pour avoir réduit l'esclavage des Indiens. Voilà, et d'ailleurs, il y a plusieurs enquêteurs, des juges nommés par les rois catholiques, qui ramèneront eux-mêmes par bateau à Saint-Domingue les Indiens qui ont été enlevés par Colomb. Saint-Domingue, c'est aujourd'hui, c'est Hispaniola, la première île découverte par Colomb, et c'est aujourd'hui une île qui se partage entre deux pays, Haïti et la République dominicaine. Voilà, alors ça c'est fondamental, le soin avec lequel Isabelle veut traiter les Indiens. Et pour cela, eh bien, très vite va être mis quelque chose en place qui a mauvaise presse et pourtant qui est fondamental parce qu'il n'y aurait pas eu d'évangélisation sans cela, c'est l'encomienda. En français, on peut dire la commanderie. C'est tout simplement l'application du système féodal, c'est-à-dire le gouvernement d'un territoire et de ceux qui s'y trouvent, qui sont des travailleurs, par un seigneur, en échange de la protection physique de ces Indiens par leur chef espagnol et en échange aussi de leur protection spirituelle. L'espagnol doit les catéchiser, doit construire une église, leur permettre d'aller à la messe tous les dimanches, les inciter à y aller. Et donc, c'est un système un petit peu paternaliste. C'est exactement le côté missionnaire en plus, ce qui existait en Europe au Moyen-Âge et un petit peu après, ce qu'on appelait le servage, hein, l'autorité d'un seigneur sur des paysans en échange d'une sécurité physique, parce que c'était le seigneur qui se battait, pas le paysan, à la guerre. Pour cela, le seigneur ne payait pas d'impôts, ou plutôt si, il payait l'impôt du sang, parce qu'il portait l'épée. Bon, ben, c'est ce système-là qui est amené, et donc qui n'est pas une nouveauté du tout, hein, qui est amené en Amérique. Et donc, il y a plusieurs objectifs institués, enfin fixés par Isabelle la catholique. Alors, c'est marrant parce qu'elle fixe l'encomienda, enfin, elle en fixe les détails, elle en rappelle les détails quelques jours avant sa mort. Jusqu'à sa mort, elle est très préoccupée du sort de ses nouveaux vassaux. Elle les appelle mes vassaux. Et quand elle voit Christophe Colomb arriver avec les Indiens des îles enchaînés, elle leur dit mais qu'as-tu fait à mes vassaux? Qu'as-tu fait à mes sujets? C'est magnifique. Donc, Isabelle 1 veut que les Indiens ne restent pas éparpillés dans la brousse ou dans la jungle. Pourquoi? Eh bien parce que c'était des Indiens qui n'avaient pas bâti de ville, les Indiens des îles. Ce n'est pas les Aztèques, les Mayas ou les Incas. Ce n'est pas du tout la même civilisation. C'est des Indiens, entre guillemets, sauvages, qui vivent de manière primitive dans des espaces sauvages. Voilà. Non domestiqués, à peine cultivés. Deuxième objectif, créer des villages où sont réunis les Indiens, où ils sont réduits. En espagnol, réducir, ça veut dire aussi réunir. C'est ce qui donnera le nom aux réductions. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mission. Mais qui a vu le film Mission?
Moi, je l'ai vu.
Ok.
Je l'ai vu. Ouais, il y a longtemps.
Bon, on en reparlera. Il y a de graves erreurs dans ce film. Alors oui, c'est beau, c'est émouvant, c'est la rédemption d'un conquistador, etc. Mais il y a de graves erreurs historiques dans ce film. Vous verrez que c'est quand même une vision américaine un peu caricaturale de la mission. Bon, ne culpabilisez pas si vous avez versé votre petite larme, hein, c'est pas grave. Moi aussi, hein. Mais vraiment, ça vaut le coup d'en reparler. Bon, bref. Donc voilà, on voit dans Mission des réductions, des villages indiens, où les Indiens sont réunis autour d'un prêtre et de seigneurs laïcs aussi, même si ça ne se voit pas trop justement dans Mission et c'est dommage. Troisième objectif, confier chacun de ces villages à une bonne personne, un encomendero, à une bonne personne. D'ailleurs, confier en espagnol, ça se dit encomendar. Donc vraiment, il y a l'idée de responsabilité morale du seigneur. Évidemment, il y aura des abus ou des bons et des mauvais seigneurs. Ben oui, il y aura des situations très différentes, comme en France et en Europe, il y avait des mauvais seigneurs. Bon, mais voilà l'intention initiale du système et une intention qui permettra quand même l'évangélisation de l'Amérique. Quatrième objectif, eh bien, s'assurer que le travail pour lequel les Indiens sont requis donne lieu à un paiement honorable et à un bon entretien. C'est-à-dire que l'encomienda, ce n'est pas l'esclavage. Et encore, l'esclavage, bon, en Europe, n'était pas aussi dur qu'ailleurs. Ainsi, dit Isabelle dans son testament, les Indiens doivent accomplir leur travail comme des personnes libres, ainsi qu'elles le sont. Alors qu'elles ont vocation à être libres, voilà. Et non comme esclaves. Donc le terme est utilisé, hein. et elles doivent être bien traitées. Bon, il faut savoir que l'esclavage était universel en ce temps-là en Europe, que l'Église en condamnait essentiellement les abus, les mauvais traitements, mais rappelez-vous de la phrase de saint Paul à je ne sais plus qui, c'était ma première intervention, mais dans une lettre, il écrit reprends tes esclaves, vous savez, les esclaves qui avaient fui de chez leur maître, mais maintenant, sois pour eux comme un frère. Bien voilà, c'est ce qu'Isabelle recommande aux encomenderos, d'être des frères, bon, en l'occurrence des pères, étant donné le faible niveau d'éducation, de réflexion et même physique hein, des Indiens, j'y reviendrai parce que ça, c'est un élément très important. L'Église, elle est pragmatique, hein. Elle est face à des peuples qui sont très différents. Alors, et puis il y a des lois, les lois de Burgos en 1512, les lois de Valladolid en 1513, les instructions de 1516 qui viennent à chaque fois demander à ce qu'il n'y ait pas d'esclavage, à ce qu'on traite bien les Indiens. Ce sera l'effort législatif profondément chrétien de l'Espagne, qui est vraiment le deuxième poumon de la chrétienté. En fait, l'Espagne, à partir de la Renaissance, a pris le relais d'une France qui est devenue infidèle à ce moment-là, en laissant le protestantisme se développer, notamment sous François Ier, dont le règne a été, à certains égards, assez catastrophique, je crois, pour la chrétienté et pour la France. L'Espagne, elle, a relevé le flambeau de la chrétienté. Et ça a donné l'Amérique chrétienne. Alors, on va rentrer dans le détail. Parce qu'il faut vraiment comprendre que les peuples des îles sont très différents des Aztèques, des Incas, etc. Et alors, ça, il y a un auteur fondamental là-dessus que je vous conseille, Jean Dumont. L'heure de Dieu sur le Nouveau Monde, c'est un ouvrage sur les grandes figures de missionnaires et de saints d'Amérique. Il en prend 4 ou 5, il n'en prend pas beaucoup, mais il explique à travers ces figures comment l'Amérique a été évangélisée. Et puis, cet ouvrage assez dense, il y a beaucoup d'infos, mais la vraie controverse de Valladolid, c'est fondamental. Qui a déjà entendu parler de la controverse de Valladolid?
Moi, j'ai lu un livre dessus.
Lequel?
La controverse de Valladolid, ça s'appelait comme ça.
D'un monsieur Carrière, je crois, Jean-Luc, Jean-Michel,
Ouais,
Jean-Marc.
un truc comme ça, c'est.
Vous l'avez lu au lycée? Voilà. Bon, ben alors ça, c'est de la propagande à plein tube. C'est une pièce de théâtre initialement, qui a été au début du XXe siècle, qui a été transformée en téléfilm et qui sert de base à l'enseignement encore au lycée, mais qui est extrêmement mensonger. Bon, j'y reviendrai. Donc, Jean Dumont a travaillé sur la controverse de Valladolid. Et alors, je vous le cite. Voilà, cette demande de respect de la liberté indienne n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés. En effet, les Indiens sont restés éparpillés et sous-alimentés dans la brousse, dans la jungle, et donc n'étaient pas touchés par l'évangélisation, ceux de Saint-Domingue, Cuba et Porto Rico. Ils avaient un niveau de vie extrêmement bas. Ils étaient végétariens. Les mères allaitaient leurs petits jusqu'à 5 ou 6 ans parce que les petits ne pouvaient autrement se nourrir que très mal. L'espagnol ne put évangéliser réellement là-bas parce que le très bas niveau culturel de l'Indien, c'est super important, le très bas niveau culturel de l'Indien ne permettait pas le dialogue. Et donc là, très vite, on va se rendre compte, non pas qu'Isabelle, la catholique, bénie soit-elle, se soit trompée dans ses intentions, non, mais que la liberté demande une éducation pour qu'elle soit bien utilisée. Et c'est ce que vont faire donc c'est ce que vont faire les chrétiens. Et puis les Espagnols vont rencontrer des premiers Indiens assez pacifiques, les Taïnos, qui sont difficilement capables de se défendre. Et après, ils vont en rencontrer d'autres que ce qui sont les Caraïbes et eux qui sont carrément cannibales. Encore une fois, c'est Jean Dumont qui nous en parle. Et il montre que déjà dans les toutes premières années de l'évangélisation espagnole, bien, la stratégie de la liberté va être un petit peu modifiée. Donc, Les Caraïbes étaient cannibales. Je voulais vous retrouver quelque chose, mais je n'ai pas retrouvé la citation. Oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que l'affrontement avec les Caraïbes, qui affrontaient donc les Espagnols et qui étaient beaucoup plus offensifs que les Taïnos, eh bien, va voir réapparaître une forme d'esclavage chrétien. C'est-à-dire que l'esclavage chrétien était limité, autant que faire se peut, voilà, parce qu'il y avait des conquérants qui n'étaient pas de bons chrétiens, bien sûr. Pardon, à des prisonniers de guerre. Donc les Caraïbes vont être captifs et faits prisonniers de guerre et vont être esclaves, c'est-à-dire qu'ils vont être au service personnel des Espagnols. Donc très vite, les Espagnols, le pape, les rois catholiques, donc les rois d'Espagne, vont se rendre compte que il n'y a pas d'évangélisation sans civilisation. Et ça, c'est vraiment l'élément fondamental qui permet de comprendre l'esprit de l'évangélisation de l'Amérique, qui est espagnole parce qu'elle a été lancée par des Espagnols, mais les missionnaires étaient flamands, bourguignons, français, allemands. Les Espagnols ont servi de canal. Et ce ne sont pas que des Espagnols, évidemment, qui ont évangélisé l'Amérique, pas du tout. C'est que pour se lancer dans la grande aventure de la mission américaine, il fallait passer évidemment par le biais de l'Espagne. Mais voilà, des missionnaires sont venus de partout. Et donc j'aimerais vous citer le père Charles qui a travaillé sur ce sujet et qui lui explique que les Espagnols et les catholiques de l'époque qui n'avaient pas été contaminés par le protestantisme avaient bien compris que le travail missionnaire consistait moins, c'est super important ça, consistait moins à prêcher le salut. Donc prêcher le salut, ce n'est pas le plus important, qu'à bâtir solidement l'établissement du salut. C'est-à-dire qu'à créer les conditions culturelles, sociales, économiques même, pour que le salut puisse être bien transmis. On ne peut pas transmettre le salut à des Indiens qui pratiquent l'inceste comme nous, on mange du pain, comme nous, on se met à table. Et qui sont même diminués intellectuellement en raison des conditions de vie que j'ai évoquées, notamment en parlant de l'allaitement. Cathédrales, monastères, hôpitaux, palais de gouverneurs, citadelles pour protéger le tout. Les Espagnols créent non pas des comptoirs commerciaux, des ports de commerce comme les Portugais, mais ils créent des cités, des villes. Les Espagnols sont les bâtir des villes. Et c'est comme ça qu'en fait qu'ils ont évangélisé et converti les Indiens. C'est progressivement en faisant des Espagnols, tout en récupérant, en recyclant, si j'ose dire, même si c'est pas très joli, pardon, ce qu'il y avait de mieux, de plus beau chez les Indiens. Voilà, ce qu'il y avait de plus pur chez les Indiens. Alors, le premier conquérant à avoir conquis quelque chose qui valait la peine d'être conquis, c'est Hernán Cortés. Hernán Cortés qui est arrivé au Mexique en 1518 et qui en a fait la conquête entre 19 et 21. Il rencontre un peuple qui a des traditions extrêmement sanguinaires, mais pas uniquement, c'est pas le cas seulement des Aztèques, donc des Indiens du Mexique, ou des Mayas, ceux du Guatemala et du Mexique du Sud. Que ce soit les danses du soleil, avec des formes d'automutilation chez les Indiens des plaines aux États-Unis ou chez les Indiens du Mexique, eh bien on suspendait à l'aide de crochets en métal les Indiens, donc des crochets enfoncés dans la peau, enfin en métal ou en d'autres matières, à des arbres, à des mâts, etc. Et ils devaient tenir des jours entiers jusqu'à ce que la peau cède. Et c'était une épreuve pour accéder à un statut à l'âge adulte. Je vous parlerai en long et en large, mais pas trop non plus, des sacrifices humains chez les Aztèques, les Mayas et les Incas, à peu près 40 ans avant l'arrivée d'Hernán Cortés au Mexique. Le Templo Mayor, principal temple de la cité de Tenochtitlan, de Mexico, a été inauguré en tuant 80 000 personnes en 4 jours. 80 000 personnes, le cœur arraché, le cœur mangé, les membres, le corps en entier mangé par les Aztèques, mangé par l'empereur lui-même, donné aux chiens. Les enfants, je vous en ai parlé, je crois déjà, que l'on piquait avec des épines de cactus ou avec des couteaux pour les faire pleurer, parce qu'on pensait que les pleurs des enfants permettraient des pluies et donc d'obtenir des bonnes récoltes. Vous voyez comme le diable ne crée rien, il imite. Moi, je suis maître d'école et j'entends souvent à l'école mon directeur ou d'autres adultes, moi-même, dire aux enfants que leur prière est importante aux yeux de Dieu, qu'elle touche son cœur. Eh bien, le diable n'invente rien, il prend cette réalité, mais il la tourne dans un sens atroce. Les Espagnols ont vu le diable hein, en Amérique. Ça, c'est pas des blagues. Hein. Vous pouvez lire des chroniques d'époque, notamment de missionnaires, de prêtres. Le père Bartolomé Olmedo, qui était l'aumônier de la troupe de Cortés, dit qu'il a entendu les idoles parler. Parce que le diable parle quand on lui répond. Demandez à n'importe quel prêtre exorciste, le diable ne parle pas. Voilà. Les Indiens des plaines aux États-Unis d'Amérique et puis au Canada vont élaborent des tortures infâmes pendant des jours et des jours. N'importe quel étranger qui rentre dans le village est d'abord tabassé par tout le monde. Ensuite, il est placé nu sur un poteau. On fait brûler des haches dans un feu. On demande aux enfants et aux enfants d'abord de les placer sur les parties les plus sensibles du corps des victimes. Et puis bon, je ne vous ai pas parlé du cannibalisme, enfin si, vite fait. Bon voilà, là, c'était pratiqué dans tout le monde indien. Donc, les Indiens sont des peuples de proie, comme on dit qu'il y a des oiseaux de proie. Or, le 16e siècle en Espagne, et en Europe, c'est le siècle de la résistance au protestantisme. Que fait le protestantisme? Il remet en cause le caractère sacrificiel, eucharistique de la messe. Rappelez-vous que les protestants ne croient pas en la transsubstantiation, le changement de substance de l'hostie qui devient la chair du Christ. Les protestants n'y croient pas et l'Église est donc obligée de reformuler ce qu'elle croit sur le sujet et ça donnera bien le Concile de Trente, d'ailleurs préparé en grande partie par des cardinaux espagnols, qui s'achève en 1565. Alors vous me direz, oula, ça c'est 30 ans, 40 ans après la conquête du Mexique et 60 ans après, ou 70 après l'arrivée des conquérants. Bien sûr, mais l'Immaculée Conception, par exemple, elle a été définie comme un dogme en 1854, après l'apparition de Notre-Dame à Lourdes. Et vous savez que les Espagnols la fêtaient déjà au XVIe siècle. L'Église, par ses conciles et les grandes décisions ex cathedra, c'est-à-dire les décisions d'autorité du pape qui s'appliquent à tous avec devoir d'obéissance, ce sont souvent des consécrations, des confirmations d'idées anciennes qui étaient déjà pratiquées dans l'Église. L'Église est une mère sage et prudente et patiente. L'Église, ce n'est pas un parti politique qui décide du jour au lendemain qu'on va faire comme ci ou on va faire comme ça, parce que c'est vrai, parce que c'est juste. L'Église, elle recherche sincèrement, voilà, la vérité. Elle nous propose des choses qui ont longtemps maturé. Et donc, ce Concile de Trente nous dit, c'est un extrait du décret final du Concile américain, enfin, du Concile de Trente en 1565. Dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ est contenu et immolé, donc immolé, c'est sacrifié, d'une manière non sanglante. Le vrai sacrifice est non sanglant. Deux, qui s'est offert une seule fois sur l'autel de la croix. Donc il n'y a pas besoin d'en faire d'autres, des sacrifices. Une seule fois. D'une manière sanglante. Une seule fois d'une manière sanglante. Et maintenant, il est actualisé sur l'autel d'une manière non sanglante. Si vous lisez ces lignes à la lumière de ce que vous savez maintenant des Indiens, mais ce que vous saviez peut-être déjà des Indiens d'Amérique, bien vous comprenez à quel point les Espagnols et les catholiques de l'époque, qui étaient profondément, qui avaient une foi plus eucharistique encore que la nôtre, parce que la messe avait, je crois, plus d'importance dans la vie des catholiques de cette époque-là, vous comprenez leur dégoût devant les sacrifices humains et même le traumatisme. Et en fait, Cortés, pendant toute la conquête du Mexique, on a les lettres de Cortés, on a aussi le récit de la conquête par Bernal Díaz, D-I-A-Z, Bernal Díaz. Del, D-E-L, Castillo, C-A-S-T-I-2-L-O. On a d'autres témoignages aussi d'époque, des chroniques, et on voit Cortés sans cesse utiliser la messe comme instrument missionnaire. Voilà. De 1519 donc à 1521. Je vous cite Bartolomé Bennassar, Cortés, conquérant de l'impossible. Les images de cœur palpitant, source d'un sang encore chaud, enterrent les esprits des soldats de la conquête. Les chroniques en témoignent, les Espagnols redoutèrent beaucoup plus que la mort, le sacrifice, le couteau d'obsidienne sous lequel des centaines d'Espagnols sont tombés. Hein. Les Espagnols ont vu les leurs tuer vivants et manger vivants. Oui, c'est une réalité. Ils surent alors, les Espagnols, que leur terreur était fondée. Cette fin horrible était le lot de ceux de leurs compagnons qui étaient capturés par les Mexicas. C'est l'autre nom des Aztèques. Cortés et ses hommes étaient porteurs de l'idée chrétienne, selon laquelle, par l'incarnation du Christ, puis le supplice de la croix, donc il y a les deux, eh bien, le péché de l'humanité a été racheté par un sacrifice unique et sanglant, celui du Fils de Dieu lui-même, de sorte que les cultes rendus par les hommes, et notamment à la messe chrétienne, eh bien, doivent épargner le sang. Donc ils ne sont pas seulement dégoûtés parce qu'ils voient des innocents tués au sommet des pyramides, ils sont dégoûtés parce que le sacrifice humain est un blasphème, c'est un mensonge. Le péché a été racheté. Et donc quand vous continuez à réaliser des sacrifices pour demander des choses aux dieux et pour être sauvés de l'Armageddon, eh bien en fait vous insultez le sacrifice du Christ, vous insultez Dieu, vous refusez son amour, surtout quand vous perpétuer ces sacrifices alors que vous avez été évangélisé, bien sûr. Et donc, le Christ est mort pour rien. Vous voyez, il ne s'agit pas juste de sensibilité. C'est-à-dire que même d'un point de vue intellectuel, le sacrifice humain est un blasphème. C'est extrêmement grave. On ne peut pas transiger une seule seconde là-dessus. Donc, Cortés va évangéliser par la messe. Cortés fait célébrer la messe en présence de seigneurs indiens. Après avoir dressé un autel environné de roses et avec une croix, avec une image de Notre-Dame aussi. Pourquoi? Pour opposer un rituel non violent, un rituel vocal, un rituel gestuel, au rituel sanglant des Aztèques. C'est l'attitude qu'il adopte ici ou là, lors du baptême de certaines jeunes femmes, le cérémonial donc de la messe de baptême, célébré par Bartholomé de Olmedo, l'aumônier de la troupe, a été très étudié. Cierges de cire allumés devant l'autel, croix et image de la Vierge encensée avec un parfum tiré de la terre indienne même, de plantes indiennes. Il fait élever une chapelle partout où il passe, dans tous les temples. C'est-à-dire que Cortés, il met en péril sa conquête. Il met en péril sa conquête. Il n'a aucun intérêt à s'arrêter dans chaque village pour monter une chapelle, mais c'est ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il rentre dans des temples où il a du sang humain coagulé jusqu'à la cheville. Et il y a des organes cloués au mur. Enfin, c'est un film d'horreur, hein. C'est la civilisation aztèque et maya. Et à côté de ça, ils étaient géniaux. Ils étaient capables de construire des pyramides et des temples qui sont parfaitement dans l'axe de tel ou tel astre dans le ciel, pour de telle manière que tel jour, telle année, le ciel rentre par une fenêtre et frappe le disque aztèque du calendrier solaire qui se trouve sur le mur d'en face. Ils étaient brillants, c'était des entre guillemets des primitifs extrêmement brillants. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils n'étaient pas idiots. C'était des bâtisseurs de villes, hein, les Aztèques, les Mayas et les Incas. Mais j'ai envie de vous dire, et nous, qu'est-ce qu'on est en fait? Que sommes-nous aujourd'hui? Enfin, les Occidentaux en général. En fait, on envoie des gens sur la Lune ou sur Mars. On s'enthousiasme parce qu'on a trouvé un ver de terre préhistorique dans la banquise. Et on dit, waouh, la vie, on a découvert la vie. Non, mais attendez, la vie, on la massacre dans le ventre des femmes à coup de 200 000 avortements en moyenne par an. Ça fait plus de 6 millions depuis les années 70. Donc beaucoup plus, que, par exemple, que les victimes de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que les Aztèques, c'est pour ça d'ailleurs que le sujet est intéressant. Nous sommes, enfin les Occidentaux, nous ici, j'espère pas, les nouveaux Aztèques. Nous sommes des barbares sophistiqués. Nous vivons dans un grand confort, mais entourés d'une vraie barbarie au quotidien. Nous sommes des barbares sophistiqués. Eh bien, c'est ce qu'étaient les Aztèques, des barbares sophistiqués. Il fait élever une chapelle dans la résidence de l'empereur Moctezuma à Mexico, et la messe est célébrée quotidiennement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. En fait, les Espagnols ne font pas de réserve. Alors, on imagine l'Espagnol qui s'enivre facilement en se servant d'un Indien comme tabouret. Ben oui, il y en a eu, hein, c'est indéniable. Mais ce n'est pas le cas de Cortés et des siens. Les Espagnols doivent alors renoncer à l'Eucharistie, parce qu'à l'époque, bon, le sang pouvait aussi être, enfin, le sang du Christ pouvait aussi être donné. Donc, quand il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de sang, donc il n'y avait pas d'Eucharistie. Enfin, en tout cas, pas Ben, il y avait l'hostie, mais il n'y avait pas le sang. Alors, dans ces cas-là, ils priaient longuement, agenouillés devant l'autel et devant leurs saintes images, de façon à impressionner leurs hôtes. Et tout ça pour qu'ils nous voient en adoration et à genoux devant la croix, tout spécialement lorsque nous chantions l'Ave Maria, dit Bernal Diaz del Castillo. Donc c'est une évangélisation par l'exemplarité et par la messe. Un sacrifice doit répondre à un autre sacrifice. Et puis évidemment, Cortés, de temps en temps, fracasse des idoles. Mais il fracasse tellement d'idoles, se mettant en péril. Un jour, ils partent à 50, à 100, pardon, au sommet de Tenochtitlan, la future Mexico, enfin l'actuelle Mexico, parce que la ville s'appelait Mexico-Tenochtitlan. Il y a entre 150 et 300 000 habitants à Tenochtitlan. C'est plus populeux que Londres ou Paris à la même époque. Les conquistadors, ils sont 500. Ils sont 500. Et donc, ils montent avec 100 bonhommes sur le temple, parce que l'empereur a promis de plus perpétrer de sacrifices humains, mais Cortés voit qu'il n'a pas tenu sa parole, donc il explose, il prend une barre qu'il trouve par terre, et il fracasse une idole, il la fait rouler par terre, et là tout le monde lui dit, mais attends, détends-toi, on va finir sur le bûcher, enfin sur la pierre du sacrifice. Même l'aumônier de la troupe, Bartolomé del Medo, lui dit, oh, mollo, ça c'est mon travail. Donc vous voyez, c'est bon, c'est un personnage fascinant, Cortés, pour cette raison-là. Moi, je vous encourage à lire... Bon, il y a celle-là de Bennassar, mais il y en a une autre qui est un peu plus belle, je trouve, à lire. C'est Hernán Cortés de Salvador de Madariaga. Madariaga. Salvador de Madariaga. Et sur l'épopée, pardon, des conquistadors en général, bon, il y a ce livre magnifique qui se lit comme un roman de Jean d'Escola, oui, qui a été réédité d'ailleurs il n'y a pas longtemps, Les Conquistadors. Bref, alors, vous me direz, ouais, mais il fracasse des idoles. Est-ce qu'on en parle de ça? Est-ce que c'est une conversion par la force? Eh bien oui, ça, vous avez compris, c'est mon dada. C'est un sujet que je trouve passionnant parce qu'il nous oblige à réfléchir au-delà des slogans et des formules faciles. Et alors là, moi, comme d'habitude, ben, je travaille à partir de Don Gérard, le patron. Demain, la chrétienté, qui a travaillé justement cette question-là. Et qui nous explique qu'il n'y a pas de conversion. Par la force réellement, dans le cas où on fracasse des idoles, dans le cas où on interdit le paganisme, en fait. Parce que clairement, c'est ce qu'ont essayé de faire les conquistadors. Et que fait-il? Eh bien, il cite saint Thomas. Parce que Don Gérard sait bien qu'aujourd'hui, même le catholique de bonne foi va dire oui, mais et la liberté de conscience? Le bon Dieu nous a bien donné la liberté pour qu'on aille à lui. Donc, qu'est-ce que ça vaut une conversion forcée? Et alors, donc, il cite saint Thomas. Et il dit, c'est saint Thomas qui parle là, quelques infidèles n'ayant jamais reçu la foi, comme des païens ou des juifs, ceux-ci évidemment ne doivent pas être contraints à la foi pour qui, oui, contraints à la foi pour qu'ils croient. Parce que croire, c'est le propre de la volonté. Donc en fait, non seulement c'est pas souhaitable, mais c'est même pas humainement, physiquement, intellectuellement possible de contraindre quelqu'un à croire. C'est impossible. Les fidèles doivent néanmoins, si possible, user de contraintes pour les empêcher, bon là il parle des païens et des juifs, pour les empêcher de mettre obstacle à la foi. Ah oui, ça c'est important. Empêcher de mettre obstacle à la foi par leur blasphème. C'est-à-dire que le blasphème n'est pas autorisé normalement en terre de chrétienté, même quand il est prononcé par un non-chrétien. Pourquoi? Eh bien parce que ça donne un exemple terrible et ça empoisonne. De la même manière que la médisance, d'ailleurs, ou la calomnie empoisonne de façon contagieuse le cœur de nos prochains. Il faut donc les empêcher de mettre obstacle à la foi par leur blasphème, leurs mauvais arguments. C'est pourquoi les fidèles du Christ sont souvent en guerre contre les infidèles. Ce n'est pas pour les forcer à croire, car même s'ils gagnaient la guerre et emmenaient captifs les infidèles, ils leur laisseraient de croire ou ne pas croire. Mais c'est pour les obliger à ne pas faire obstacle à la foi au Christ. C'est ce que vont faire les conquérants en Amérique. C'est ce qu'a fait Charlemagne. C'est ce qu'ont fait les missionnaires francs en Germanie. C'est ce qu'a fait Saint Martin de Tours dans les campagnes gauloises. C'est comme ça que l'Église a toujours procédé. Donc attention à bien comprendre le sens du mot liberté. Alors il y a Saint Augustin aussi qui est intéressant. Là, je vous cite Saint Augustin. Évidemment, mon seul avis au début était de ne, enfin, il dit pas au début, il dit primitivement, de ne forcer personne à l'unité du Christ. Donc, ne pas forcer l'unité dans le Christ. Je pensais qu'il fallait agir par la parole. C'est beau, Saint Augustin, C'est un journal intime, ses écrits. Je pensais qu'il fallait agir par la parole, combattre par la controverse et convaincre par la raison, de peur que ceux que nous pensons être de francs hérétiques ne deviennent des catholiques simulés, des faux catholiques, de peur qu'ils fassent semblant. Mais mon opinion a changé. Il dit, mon opinion a été vaincue, non par les paroles des discussions, mais par le poids des exemples. Amen. Non par les paroles des discussions, mais par le poids des exemples. C'est pour ça que j'ai proposé ce sujet, vous voyez, au Père François Sales. Je pense que par l'histoire, on en apprend énormément, à condition de, ensuite de méditer cette histoire sur notre devoir de chrétien et sur le sens de répondre, par exemple, que ma ville, Hippone, en Tunisie, non, attendez, non, là, je confonds. Non, il était évêque de Carthage. Attendez, quelqu'un peut me corriger sur Saint-Augustin, évêque d'Hippone ou de Carthage? Personne ne peut me corriger, ça va pas.
Évêque d'Hippone, je crois.
Évêque d'Hippone, oui.
Très bien, Wikipédia est mon ami. Alors, donc, ma ville, qui était dans le parti de Donat, Donat, c'était un hérétique de l'époque, est retournée vers l'unité catholique par la crainte des lois impériales. Vous vous rappelez les lois impériales de Théodose à la fin du IVe siècle, qui a imposé socialement le catholicisme, c'est-à-dire en promouvant socialement, dans l'échelle sociale, les catholiques et en freinant le développement social, l'ascension sociale des païens. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Bon, il y a pas mal d'autres exemples là-dessus. Encore Saint-Augustin, grâce soit rendue au Seigneur qui a secoué notre négligence par la frayeur de la loi. Donc vive la peur du gendarme, nous dit Saint-Augustin, de sorte que nous recherchions, au moins dans l'inquiétude, pour qu'au moins dans la peur, on recherche Dieu, on recherche ce que nous sommes, pardon, jamais souciés de rechercher dans la tranquillité. Il vaut mieux sans doute porter les hommes à l'amour de Dieu par l'instruction. Ben oui, c'est mieux, c'est préférable, mais évidemment, personne ne dit le contraire. On n'a pas des âmes de père fouettard quand même, les chrétiens, missionnaires en puissance que nous sommes. Que de les y contraindre par la crainte et la douleur des châtiments. Mais parce qu'il y a des hommes que la douceur et l'instruction rendent meilleurs, eh bien, il ne s'ensuit pas de ça qu'on doive abandonner à eux-mêmes ceux qui ne leur ressemblent pas. C'est pas parce que certains peuvent être élevés par la douceur et l'instruction, enfin la seule instruction, dans tous les cas, même quand il y a un élément de contrainte, il y a de l'instruction aussi, bon, qu'on doit abandonner ceux qui n'en sont pas capables. Donc, vous voyez, il y a quand même l'idée fondamentale qu'il y a des hommes qui, pour plein de raisons, peuvent pas arriver par leur volonté même à Dieu. Mais attendez, c'est pas un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui? Je pense qu'on est tous un petit peu désespérés, non, dans notre vocation de missionnaire. Moi, je suis dans une paroisse, les missionnaires de la Miséricorde à Toulon, qui font du porte-à-porte, de la mission. Ils font d'ailleurs une belle mission de Noël samedi. C'est sûr que quand on voit que les gens vont juste d'un point A à un point B, les sacs remplis de jouets, de machin, parce que tout leur bonheur, c'est ça, on se dit, mais comment vous voulez faire? C'est pas juste une discussion, un café qui va faire quoi que ce soit. Ah oui, mais c'est vrai. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas discuter avec eux. Oui, en fait, il y a rien d'exclusif. L'Église, ce n'est pas un parti politique. Elle ne donne pas voilà, un seul moyen pour convertir les gens. Mais justement, parce que les hommes sont différents, ben, il y a plusieurs approches qui peuvent être toutes cumulées en fait, en même temps. Enfin, qui peuvent être toutes cumulées. L'expérience, dit saint Augustin, nous a prouvé et nous prouve encore tous les jours que l'emploi de la crainte et de la douleur a été profitable à plusieurs qui sont devenus par la suite plus disposés à s'instruire et à mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Voilà. Alors, Don Gérard nous dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est quand même. Saint-Augustin paraît contredire l'Église catholique. Est-ce que c'est possible? Eh bien non, c'est pas possible, à condition de bien comprendre ce qu'est la liberté. En effet, les nations infidèles, là c'est Don Gérard qui parle, sont appelées elles aussi à la foi. Donc ce n'est pas commettre un abus que d'imposer des conditions sans lesquelles leurs sujets seraient privés d'un bien surnaturel, plus précieux que leur propre vie. Mais tout est là. La foi est plus précieuse que la vie des gens. Il est moins pénible pour une population infidèle d'être envahie par une armée chrétienne et d'être ainsi délivrée du joug de la tyrannie de l'islam plutôt que de jouir de la paix et de l'indépendance tout en restant disciple de Mahomet. Telle est la logique de la foi. Pourquoi? Parce que la liberté nous a précisément été donnée pour Dieu, pour le bien. Et ben, vous voyez, on en voit un exemple, par exemple. C'est ce qu'on est amené à lire dans la préparation au mariage, dans tout ce qui est affectivité, amour, sexualité, etc. Quand l'Église pose des interdits, c'est pour que nous soyons libres à l'égard de nos passions. Et le paganisme repose sur la seule et unique exaltation permanente des passions, la passion de la haine, de l'envie, etc. Bon, bah, je ne peux pas en dire plus parce que sinon, voilà, il est déjà 20h54, enfin, bon, c'est pas possible. Bon, voilà. Cette évangélisation et conquête de l'Amérique, elle a eu un succès énorme, énorme. À l'inverse, il y a d'autres tentatives qui ont été faites, stratégies totalement différentes. Ce qui est bien avec l'évangélisation américaine, c'est qu'on a toutes les stratégies, parce que c'est un monde, l'Amérique. Hein. On a toutes les stratégies d'une vallée à une autre, on n'a pas utilisé forcément la même stratégie. Eh bien, il y a la fameuse mission florido-géorgienne, qui allait de la Floride jusqu'aux montagnes des Appalaches à l'ouest des États-Unis, enfin le Midwest à peu près. Et cette mission, elle a été poursuivie par des franciscains, enfin des moines mendiants, des missionnaires mendiants et autres, qui ont délibérément choisi d'y aller sans soldats, sans rien. Hein. Bon, mais ils ont été pour la plupart massacrés. Et en 1612, on a une lettre de l'un des missionnaires qui dit: Ah, on a un roi qui a accepté d'être baptisé. Bon, voilà. Bon, il n'y a pas eu véritablement de suite. Bon, on juge un arbre à ses fruits. Voilà. J'aimerais nuancer un peu plus ce que je dis parce que j'ai conscience que c'est un peu, ça peut paraître brutal. Et, voilà, mais bon, je ne peux pas, on n'a pas le temps. Tant pis. Alors, on rentre un petit peu dans le détail maintenant. Comment on a évangélisé les Américains? Bon, ben, par la bienfaisance, exactement comme on a évangélisé les païens de Rome. Hein, je vous avais parlé de l'aide sociale qui n'était pas réservée aux chrétiens, des écoles, etc. Ben, c'est ce qu'on a fait. Hein, on a créé des écoles pour Indiens où on leur apprend à lire, à écrire, à chanter, à pratiquer les travaux manuels, à cultiver des plantes ou à exercer des métiers typiquement européens. Notamment une école à Mexico qui réunit rapidement 600 élèves dans les années 20. C'est-à-dire dans les années qui suivent la conquête, quand il y a encore des temples à moitié détruits qui, par leurs débris, jonchent le sol de Mexico, ben, il y a déjà des écoles pour les Indiens, des hôpitaux. Je ne l'ai pas ici malheureusement, mais il y a une très belle carte de l'Amérique espagnole. Et on voit les dates des créations des universités, des écoles, des séminaires, des hôpitaux. En fait, avant de faire quoi que ce soit d'autre, les Espagnols ont créé ce genre d'établissement. Ils ont civilisé les Indiens pour en faire des chrétiens. Et à chaque fois qu'on a voulu susciter la création d'un clergé purement indien, c'est-à-dire de faire des prêtres qui ne soient que indiens, ça a échoué. Il y a eu des tentatives de séminaires, donc d'écoles pour devenir prêtres réservées aux Indiens, ça a toujours échoué. Pourquoi? Eh bien, il y a une explication qui nous est notamment donnée par Jean Dumont et qui encore revient à cette idée du fait que si la culture n'est pas changée, eh bien la foi ne peut pas changer. Le mariage à l'indienne. Le mariage à l'indienne, c'était préférable pour un indien que le mariage à l'européenne. Parce que donc, les Espagnols ont pris les fils de princes indiens. Les ont mis dans des écoles, etc., pour en faire en fait les élites, enfin pour qu'ils restent les élites de leur propre pays, mais pour qu'ils deviennent, qu'ils parlent espagnol et qu'ils deviennent chrétiens. Parce que les conquistadors, c'est même pas un dixième de la population américaine. Hein. Donc vous imaginez bien qu'il y a plein de territoires conquis par les Espagnols qui continuaient à être dirigés par des seigneurs indiens, mais qui étaient baptisés. C'est ça la réalité hein, de l'évangélisation, hein, de la conquête de l'Américain. Hein. C'est pas les Américains qui débarquent en Irak et qui défoncent tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, les franciscains qui avaient créé une école font le constat suivant. Ils ont créé le collège de Tlatelolco, c'est au nord de Mexico. C'est un quartier encore aujourd'hui. En fait, les Indiens veulent bien rentrer au collège, mais en fait, il n'y a aucun prêtre qui sort de ce collège alors qu'il était aussi conçu comme un séminaire. Les jeunes indigènes préfèrent le mariage mariage indien, au célibat sacerdotal ou simplement religieux. Il voulait surtout pas, évidemment. Et en plus, il voulait pas se marier avec les jeunes femmes européennes. Pourquoi? Eh bien, parce que les jeunes garçons résistent à épouser des femmes espagnoles ou formées à l'espagnol, parce qu'ils auraient dû être obligés de les entretenir, alors que jusqu'alors, ils étaient entretenus par les femmes. Vous voyez qu'il y a déjà un rapport au mariage, un rapport à la femme qui est tellement différent que pour faire pénétrer la morale chrétienne dans l'esprit indien, il faudra des années et des siècles. Et voilà, les Indiens, bon, bah, étaient sur le plan sexuel aussi. On a beaucoup de, voilà, de témoignages là-dessus, particulièrement exigeants envers leur compagne. Et donc, ça ne les intéressait pas du tout de renoncer à ça pour le sacerdoce. Et donc, il a fallu, avant de leur proposer le sacerdoce, eh bien, essayer de changer leurs mœurs. Vous voyez? Ça, c'est un principe phare de la pensée chrétienne. Retenez-le. Il y a la nature. Et il y a la grâce. La grâce n'infuse pas une nature mauvaise. Et donc, si on veut aller au ciel, nous dit Sainte Thérèse d'Avila, ben, il faut se coucher tôt. Parce que le lendemain, on n'a pas la force de faire une prière digne et on a la flemme d'aller à la messe le soir. Comme me le disait le père François de Sales, tu veux être un saint, tu recherches l'ascèse, tu recherches la purification des sens, la mortification. Eh bien, Julien, commence par arriver à l'heure à nos rendez-vous. Voilà. En fait, ça commence comme ça, la sainteté. Et c'est ce que les Espagnols ont appliqué en Amérique. Alors, l'Amérique, c'est un sujet complexe. Et il faut faire attention à ce qu'on lit ou à ce qu'on dit là-dessus. Et l'Église a pu dire des choses qui peuvent paraître contradictoires. Donc là, je vous lis la petite histoire de l'Église de Francine Bay, dans laquelle il y a, à mon avis, des erreurs. Bon, je peux le dire, elle n'est pas historienne, hein, moi non plus, donc voilà. Elle cite la Congrégation de la propagation de la foi, fin 17e, début 17e siècle, qui adresse des instructions aux missionnaires et qui dit: Ne mettez aucun zèle, aucun argument pour convaincre les peuples païens de changer de coutume, de mœurs, de rites, sauf s'ils sont évidemment contraires à la religion et à la morale. Et ouais, mais en fait, vous voyez que rien que ça change tout. Ah oui, parce que quand on pratique l'inceste, ou le sacrifice humain et puis des violences terribles sur les enfants pour un oui ou pour un non, bon ben oui, c'est sûr qu'il y a des choses à changer avant de pouvoir devenir un bon chrétien. Mais comme les Francs, hein, comme les Francs ne sont pas devenus des bons chrétiens du jour au lendemain. D'abord, ils se sont entretués. C'est la même chose, hein. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou un autre pays? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi. La foi qui ne repousse ni ne blesse, etc. Alors moi, je veux bien, mais l'Église est une réalité assez décentralisée. Et il n'y a pas un seul discours dans l'Église. Et donc, il y a eu un concile à Lima. Il y a eu même trois conciles à Lima, capitale du Pérou. Je vous cite ce troisième concile de Lima, 1582-83. On ne peut guère leur enseigner à être des chrétiens si on ne leur enseigne avant tout à être des hommes et à vivre comme tels. Il faut donc que les missionnaires et autres personnes qui ont la charge de ces Indiens veillent à ce que, perdant leurs habitudes sauvages et violentes d'autrefois, ils deviennent des individus sociaux. C'est-à-dire qu'ils acquièrent des usages, des habitudes. Par exemple, celui de venir à l'église propre et convenablement vêtu, pas nu, avec des cheveux qui n'ont pas été lavés depuis un an et des moustiques qui volent autour, des mouches. Parce que ça, c'était le cas des sages, des prêtres chez les Indiens. Ils ne se lavaient pas les cheveux, ils ne se lavaient pas tout court. Donc, c'était dégueulasse. Les femmes doivent porter un voile sur la tête, elles doivent se couvrir la poitrine. Et que les Indiens aient des tables sur lesquelles manger, des lits pour dormir. Ben oui, en fait, on en était là. La culture de la table, comme je vous l'ai dit la dernière fois déjà, ben, ce n'était pas universel. Donc, bienfaisance, baptême, bon, nombreux évidemment d'Indiens, bien que voilà, l'Église met en garde et dit à partir de 8 ans, il faut le catéchisme avec le baptême. Il n'y a pas de baptême sans catéchisme, hein, évidemment. Le pape le demande à cette époque-là. Ah, par contre, il y avait une exigence de connaissance très faible. Il fallait connaître, selon l'évêque Zumbarraga, c'est l'évêque au temps de l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe en 1531. C'est le principal évêque missionnaire du Mexique, c'est la plus grande figure voilà, catholique du Mexique. Pour être un bon chrétien, donc dans l'enseignement des Indiens, il y avait un, les quatre prières de base, le Notre Père, le Credo, l'Ave Maria, le Salve Regina. Et puis, il fallait savoir faire son signe de croix. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas faire leur signe de croix en France, ils ne savent pas que ça existe. Ouais. Moi, je pense qu'on est revenu à ce temps-là. Hein. On est des conquistadors des âmes entourés d'Aztèques. La catéchèse se fait en nahuatl, et parfois en plus en espagnol, mais toujours en nahuatl, la langue des Aztèques. Hein. Le travail de traduction est dingue de tous les missionnaires. Les images jouent un grand rôle dans la diffusion de la doctrine avec l'exposition de grands tableaux. En fait, les Espagnols ont inventé la bande dessinée. On mettait des grands tableaux de partout dans les églises pour expliquer le catéchisme, voilà, en images. Comme on l'a fait au Moyen-Âge, encore une fois. Hein. Des petits spectacles de théâtre étaient donnés devant les églises. Ben, c'est les mystères au Moyen-Âge devant les cathédrales, c'est pareil. On baptisait d'abord les chefs, mais comme on a fait avec les Francs et les Germains. Oui, il n'y a rien de changé finalement. C'est juste adapté à une réalité encore plus triviale, plus difficile. Alors maintenant. Les baptêmes étaient-ils forcés? Voilà, ça c'est aussi un cas important. La réponse est clairement non, nous dit le chercheur Jean-Louis Benoît. Je pourrais vous envoyer tout ce que vous voulez en référence. Hein. Les missionnaires savent que pour être valide, un baptême d'adulte doit être librement consenti et préparé. Voilà, ce que rappelle en plus un texte ecclésiastique de 1524. Sur de nombreux actes, on a encore des actes de l'époque. Des actes, c'est-à-dire des je sais pas moi, un compte rendu de procès, de contrat, enfin bon voilà, des actes un peu qu'on peut passer devant un notaire. Bon. Sur de nombreux actes, des Indiens se déclarent librement non chrétiens, sans que cela leur vaille le moindre blâme. Les chroniques garantissent un enthousiasme massif qui ne peut pas correspondre à des mensonges ou à des mises en scène, c'est impossible. On n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin à cette époque-là, avec la certitude qu'on est dans le vrai, bien d'essayer de dissimuler un refus des Indiens ou autre. Oui, il y a eu des refus marginaux, avec des tentatives surtout de mélange en fait entre paganisme et christianisme. Ça va exister. Mais les masses ont adhéré en fait aux conquérants. Pourquoi? Parce qu'ils les ont libérés d'une situation qui était dramatique. Ils les ont libérés des guerres fleuries. Les guerres fleuries, où on appelle ça les guerres de la fleur, c'est joli. En fait, ça veut dire qu'il y avait des razzias perpétuelles comme ça, sans déclaration de guerre, sans sommation, pour enlever des gens dans les villages pour les sacrifier. C'était ça le quotidien en fait des Indiens. Donc les Espagnols ont amené la Pax Hispanica en Amérique, comme les Romains ont amené la Pax Romana en Gaule. Voilà, on a même des récits de procès de l'Inquisition où un Indien se dit païen, non chrétien, et peut partir libre. Ben oui, parce qu'encore une fois, si l'Indien n'a pas fait obstacle au dialogue avec un missionnaire, à la transmission de la foi, il n'est pas condamné. Mais tout est là, en fait. Tout se base là-dessus. Et aujourd'hui, comme on a une conception, hein, libérale de la liberté et pas chrétienne, on croit que la liberté, c'est le choix. Mais aujourd'hui, on a le choix entre Netflix, Paramount et je ne sais pas quoi. Est-ce que pour autant, on est plus libre d'aimer Dieu? Est-ce que la multiplication des écrans, de la laideur, de la stupidité autour de nous, nous fait nous sentir libres? Si la liberté est un pouvoir pour aller vers le bien, je pense que nous sommes aujourd'hui extrêmement impuissants et extrêmement peu libres d'aller vers Dieu, à tel point la société ne nous y pousse pas. Donc la conception de la liberté classique, enseignée par l'Église, je vous renvoie à votre catéchisme, c'est un moyen d'aller vers le bien. Donc tout doit être fait pour aller vers le bien. Voilà. Bon, j'ai dit en fait déjà beaucoup de choses. Hein. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Très important de lire cet ouvrage, La Controverse de Valladolid, qui, promis, ouais, il est 21h07, je vais m'arrêter. Qui a entendu parler de Bartolomé de Las Casas?
Moi.
Oui, moi aussi.
Moi.
Non. Ok. Quelqu'un peut me dire, mais vraiment en deux mots, ce qu'il en a retenu et puis où il en a entendu parler, lycée, film.
Bah, dans le film de la controverse de Valladolid.
Ah bah oui, évidemment, ok.
Bah,
Mais
le
c'était le
livre.
dominicain qui a pris la défense des Indiens.
Voilà, ah ben bah c'est
Ah
parfait.
oui.
C'est
Moi,
parfait. On...
j'en ai entendu parler au lycée. On
Ouais.
a étudié rapidement la brève destruction des âmes. Brève
Ouais,
histoire de la
voilà.
destruction des âmes. Moi,
Voilà.
c'est le livre La controverse de Valladolid et c'est comme ça que j'en ai parlé. C'est au lycée aussi.
Très bien, très bien. Las Casas ne parlait pas la langue des Indiens qu'il prétendait défendre. Il a passé les trois quarts de sa vie en dehors de son diocèse, qui se trouvait au Mexique, et il était partisan d'une évangélisation sans soldats. Il était contre le principe même de la conquête. Il faisait partie d'un courant très particulier, les Dominicains de Saint-Domingue. Et il a été censuré après la controverse de Valladolid, qu'on présente comme une victoire de Las Casas, mais c'est faux. Je crois que Francine B commet cette erreur. C'est faux. Après donc la controverse de Valladolid, ses écrits ont été censurés, mis à l'index, considérés comme non catholiques. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il valait mieux abandonner les Indiens au paganisme et au sacrifice humain plutôt que de les amener à découvrir de nouveaux vices qu'auraient pu apporter les Espagnols et donc de les pousser à se damner. Vous imaginez à quel point il faut être tordu pour défendre une telle position. C'était un anticolonialiste farouche, mais pire que ça, il considérait qu'il valait mieux ne pas évangéliser quelqu'un si on risquait d'apporter en même temps dans cette évangélisation un mauvais exemple. En fait, c'est intenable, à moins de croire que les missionnaires sont des êtres parfaits, sans défauts, sans péché. Enfin, je veux dire, c'est délirant. Et alors, on le sait d'autant mieux bah, qu'on a les textes de la controverse de Valladolid. Son adversaire, Luis de Sepúlveda, est honoré après la controverse. Et Las Casas, lui, est censuré après la controverse. C'est Sepúlveda qui a gagné la controverse. Et la controverse, on nous dit, oui, c'était pour savoir si les Indiens avaient une âme. Non, mais attendez, vous croyez vraiment que le pape, les rois, les docteurs en théologie de l'époque étaient en train de se demander si un être humain autre qu'européen avait une âme? Non, mais attendez, Marco Polo était allé chez les Chinois. On avait tenté des missions chez les musulmans, les juifs. Toutes les races de l'univers, à part les Indiens, justement, étaient connues. On savait bien que les non-blancs avaient une âme. Il faut être complètement dingue pour croire que les gens, que le pape au XVIe siècle, un jour ce matin, s'est dit, ah, tiens, est-ce que les Indiens ont une âme? On va discuter de ça. C'est du délire total. Le vrai sujet de la controverse de Valladolid, c'est est-ce qu'il faut associer la conquête à l'évangélisation? Et est-ce qu'on doit continuer à réaliser des conquêtes en Amérique? C'est ça le vrai sujet de la controverse de Valladolid. On a les actes signés par les observateurs, les juges de la controverse. Donc on a tous les éléments de là-dessus. Et tout ce que l'on sait aujourd'hui sur le sujet repose sur la très brève destruction des Indes par les Espagnols de Las Casas et la pièce de théâtre catastrophique de Carrière, et suivie d'un téléfilm atroce sorti dans les années 90. Mais c'est un mensonge qui n'est pas seulement anti-espagnol, bon, parce que de toute façon, on n'a pas à être chauvin à la place des Espagnols, on s'en fout. C'est un mensonge profondément même anti-chrétien, parce que l'œuvre missionnaire là-bas, pas seulement réalisée par des Espagnols, j'insiste là-dessus, est absolument incroyable. Voilà. Las Casas défend même les sacrifices humains en disant que c'est une forme de piété plus noble que l'hypocrisie des conquistadors qui trompent leurs femmes un samedi soir et qui vont à la messe le dimanche. Non mais enfin je veux dire, c'est quand même un truc de dingue. On ne peut pas raisonner de cette manière-là, c'est du fanatisme à l'état pur. Donc Las Casas, c'est un personnage très particulier, qui n'a pas du tout fini en odeur de sainteté, et qui est présenté comme un modèle de chrétienté aujourd'hui, mais même dans le discours assez courant de l'Église. Enfin, des autorités les plus hautes de l'Église. Donc, vous voyez qu'il y a, voilà, il y a un vrai débat là-dessus aujourd'hui, mais heureusement, grâce aux travaux notamment de ce monsieur Jean Dumont, qui est un parfait hispanophone et qui a tout travaillé, et qui a notamment été doyen d'une université en Espagne, et qui a travaillé sur ces sujets-là, bien, on connaît un peu mieux la réalité. Et également, dans le film Mission, moi, je vous invite à le regarder avec beaucoup de distance, ce film, parce qu'il y a des erreurs. Le cardinal qu'on voit à la fin dans la forêt, c'est impossible. Il n'y avait pas de cardinaux en Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique était sous l'autorité du patronat. Le patronat, ça voulait dire le pouvoir spirituel des rois catholiques. Je vous l'ai dit, l'autorité sur l'Église en Amérique appartenait au roi d'Espagne. Donc il n'y avait pas d'autorité romaine, il n'y avait pas de cardinaux, il n'y avait pas de pape, il n'y avait personne de ce niveau-là d'autorité dans l'Église pouvant être présent en Amérique. De la même manière, le film nous présente le petit conquistador repentant, forcément atroce avant et forcément parfait après, ou pas loin. Déjà, c'est très manichéen, hein, c'est très américain quand même. Hein. Contre les autorités de l'Église qui ne comprennent pas ce qu'il fait. Comme si les autorités, les puissants étaient forcément mauvais et puis les petits et les humbles étaient forcément bons. Là, on a une vision qui est presque marxiste, presque communiste en fait, du christianisme. Donc voilà, il y a plein d'erreurs factuelles dans ce livre. Je vous invite à vous procurer cet ouvrage, Une croix sur le Nouveau Monde. C'est les actes d'une université d'été de Renaissance catholique qui a interrogé plein d'auteurs, voilà, Michel de Gégère du Figaro Histoire, Philippe Conrad et tant d'autres, et notamment Jean Dumont sur la question. Et il aborde tous ces sujets-là, en fait, dont je viens de vous parler. En fait, tout est résumé là-dedans. Maintenant, si vous voulez pousser, ben voilà, il y a Jean Dumont, L'heure de Dieu. Et puis, si vous avez rien lu de tout ça, enfin, si vous n'avez pas encore lu Don Gérard, lisez Don Gérard. Voilà, je m'arrête là. S'il y a des questions, c'est maintenant.
J'ai une question par rapport à la controverse de Valladolid. C'est qu'en fait, si on a gardé tous les textes enfin, des réunions qui se sont tenues à ce moment-là, comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle, enfin, tel retournement en fait, des choses aujourd'hui?
Oui, eh bien, parce que toute la légende noire de l'Espagne, qui s'appuie notamment sur cette interprétation actuelle de la controverse de Valladolid, a été répandue par des historiens et des auteurs anglo-saxons, protestants ou français ennemis de l'Espagne, à des seules fins géopolitiques. L'objectif, c'était tout simplement de liquider l'image de l'Espagne. Bon, ça, c'est entre guillemets de bonne guerre. C'est un des armes de la géopolitique, enfin, pardon, une des armes de la politique étrangère. Eh bien, c'est le mensonge et c'est la calomnie. Donc, c'est ce que l'Espagne a subi pendant jusqu'au XXe siècle. Et après, qui a pris le relais de cette version de l'histoire? Eh bien, c'est la franc-maçonnerie, c'est la gauche anticléricale et la gauche anti-chrétienne qui, il ne vous aura pas échappé, est arrivée au pouvoir à une certaine année, 1789, en France. Et toute l'éducation nationale reprend ce discours-là avec une vision de la liberté qui est faussée et qui ne permet pas de comprendre la vision de la liberté catholique. Reprenez l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais ça, ce n'est pas la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, c'est d'aller vers le bien. Et puis, on n'est pas des individus qui flottent dans l'espace comme ça, sans relation. Si mon voisin se met à se droguer, qui devient violent, ben, je vais le subir. Donc, en fait, tout ce qu'on fait est lié au voisin. Si je décide d'aller travailler un dimanche et que je suis dans un magasin, enfin, si je suis patron d'un magasin et que je décide d'ouvrir mon magasin le dimanche, ah, ben, c'est ma liberté. Ben, ouais, mais enfin, mes employés, ils vont devoir venir travailler. Et même en tant que consommateur, si je vais consommer dans un magasin le dimanche, le patron va voir qu'il y a du bénéfice ce jour-là, et donc il va faire travailler tous ses employés le dimanche. Bon, cette conception libérale de la liberté qui inspire tous les programmes de l'éducation nationale depuis 2 siècles, de l'instruction depuis 2 siècles, ben, elle est contraire à la liberté chrétienne. Donc en fait, voilà, votre question, c'est la question des valeurs républicaines aussi, c'est la question voilà, de l'instruction, c'est une question très vaste. Mais aujourd'hui, on a tous les écrits permettant de connaître vraiment la controverse de Valladolid et pas seulement Jean Dumont. On les a, mais en fait, on les avait depuis toujours. Mais il fallait que des gens aillent se coltiner à Séville, aux archives du Conseil général des Indes, la lecture de toutes les chroniques de l'évangélisation américaine, et puis aillent à Valladolid lire les textes de la controverse. En fait, c'est tout simplement le poids des préjugés qui est en train de disparaître peu à peu, mais ça met très longtemps. Donc voilà, mensonges, calomnies, propagande protestante, anglo-saxonne, et ensuite anticléricale, antichrétienne, révolutionnaire, maçonnique et d'extrême gauche à partir du 19e siècle.
Et moi, monsieur, j'avais une dernière question par rapport au traité. Vous avez parlé au début du traité de Tordesillas. En fait, enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre quel était ce traité.
C'est un traité de partage du monde entre l'Espagne et le Portugal, signé sous l'autorité du pape, qui dit, bon, ok, ce sont vous, les navigateurs portugais et espagnols, qui avez repéré les principales routes pour accéder aux Indes. Alors, les Indes, c'était les Indes occidentales, l'Amérique, les Indes orientales, l'Asie. Donc, je vous confie la charge, enfin, la légitimité pour coloniser ces territoires, à condition que vous les évangélisiez et que vous fassiez parvenir donc la bonne nouvelle du salut chez ces peuples. Et il faut savoir qu'à l'époque, seuls les Espagnols et les Portugais, en fait, hein, sillonnaient les mers. La France était empêtrée dans les guerres d'Italie et plus tard dans les guerres de religion. L'Italie n'existait pas, c'était une mosaïque de provinces. Et l'Angleterre sortait de la guerre de Cent Ans un petit peu fatiguée, et puis a été confrontée à des guerres civiles entre factions aristocratiques. Donc en fait, le champ était libre pour les Espagnols et les Portugais. Voilà.
Ok,
Je t'ai répondu?
oui. Est-ce que s'il vous plaît, vous
Ouais.
pouvez nous rappeler l'auteur de L'heure de Dieu, s'il vous plaît?
C'est Jean Dumont, Dumont.
Ah.
Il a écrit un livre très connu qu'on trouve de partout dans les abbayes, etc. C'est L'Église au risque de l'histoire. Voilà, je me suis inspiré de lui hein, pour le titre de cette série de conférences. L'Église au risque de l'histoire, dans lequel il traite un petit peu de ces sujets. Mais là, vous voyez, vous avez L'heure de Dieu sur le Nouveau Monde. Bon, c'est pas très gros. Et vous avez toutes les grandes figures missionnaires de l'Amérique. Il traite aussi un petit peu de l'Inquisition. Donc, il parle de l'évangélisation au Pérou, Saint Jérôme de Loesa, Saint Turibe, Vasco de Quiroga et Bernardine de Sahagún au Mexique. Voilà, il étudie toutes les stratégies missionnaires en fait en Amérique. Donc, de lui, il y a ce bouquin-là. Et puis voilà, la controverse de Valladolid qui est fascinante parce que vous voyez, par exemple, au début de la controverse, il rappelle un peu le point de vue. Des philosophes de l'époque et il cite notamment des grands ecclésiastiques, des théologiens qui expliquent, et moi je pense que c'est juste, on a du mal à l'entendre aujourd'hui, mais c'est juste, eh bien que les peuples ne sont pas tous égaux dans leur connaissance, leur intelligence, etc. On n'est pas tous des fils des Grecs et de Rome. Et par exemple, il y a un des juges, un des témoins, pardon, convoqués, un des théologiens convoqués par les juges de Valladolid, qui s'appuie sur Aristote et qui dit que bah oui, il y a des hommes qui sont inférieurs en raison du fait qu'ils sont des serfs par nature. C'est un théologien qui dit cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés à être dominés toute leur vie et écrasés par les autres, bien sûr, mais ils ont besoin. Eh bien, d'être traité de manière paternelle, ce qui implique parfois ben oui, des moyens contraignants. Je crois que c'est Saint Turibe au Pérou qui parfois a utilisé des châtiments physiques contre des Indiens. Et en fait, il le fait, mais il le fait en pleurant parce qu'il n'a pas réussi à procéder autrement. Et l'Indien qui se fait frapper par Turibe, qui se prend un coup de règle dans la tête, lui dit, mais pas assez, beaucoup plus. J'ai vraiment commis trop de mal. Et en fait, il se rend compte qu'en fait, il a face à lui de grands enfants. Alors, je ne dis pas que c'est bien de frapper des païens, attention. Bon, après, ça dépend. Je rigole. Mais en fait, je veux juste vous dire qu'il ne faut pas regarder le passé. Il ne faut surtout pas regarder les autres avec nos yeux. Tout le monde n'est pas un Européen. Les Africains, en fait, ce n'est pas des Européens noirs. Hein, je suis désolé, mais en fait, nous sommes extrêmement différents. Et si on veut toucher le cœur des gens, bah, il faut aller. Jusqu'au fond de leur culture et de leur histoire, et c'est ce qu'ont fait les missionnaires en Amérique. Alors là-dessus, dernière citation, mais celle-là, elle vaut son pesant d'or, promis, et ça, c'est un bouquin qui est passionnant parce que c'est un récit missionnaire chez les Inuits. Bah non, c'est bon, je vous garde pour la prochaine fois. Voilà. Je vous le garde pour la prochaine fois parce que j'avais dit que je vous parlerai de l'évangélisation du reste de l'Amérique. Mais je vais quand même vous dire un petit passage. Je garderai le reste pour la suite. Donc lui, il a évangélisé les Inuits. Que dire de l'impression profonde faite dans nos chrétiens eux-mêmes par la doctrine catholique? Il dit nos chrétiens, il parle des Inuits chrétiens. Là encore, nous devons nous rendre à l'évidence et confesser que la pratique de notre religion se heurte chez eux à un atavisme têtu et à une amoralité difficile à ébrécher. Donc ça, c'est un missionnaire du début du XXe siècle. L'âme de l'Esquimau, c'est un prêtre qui parle, hein, s'étant ouverte à la foi, peut bien être dite convertie, mais convertie ne sont ni sa nature ni son corps. Eh oui, en fait, la nature n'est pas forcément convertie, même si la grâce est là. Le baptême opère bien le miracle spirituel qui donne à l'homme la grâce de Dieu. Donc oui, on reçoit la grâce, ok. Mais il ne change pas son anatomie physique ou sa mentalité. C'est au bénéficiaire de la grâce, avec l'aide de Dieu, de s'arracher aux multiples tares et aux mauvaises habitudes qu'il a pu accumuler dans le passé. Par cette faiblesse notamment, et en plus par-dessus, cette faiblesse naturelle qui est commune en tous. commune à tous. Là aussi, le régime alimentaire des Inuits fait qu'il y a des mois et des mois d'allaitement. Vous imaginez bien que ça ne crée pas les mêmes individus, hein, que les Européens. Et par exemple, il dit que le matériel et le spirituel s'enchevêtrent chez les Indiens. Ils ont un rapport totalement païen à la foi. Par exemple, Père, est-ce que j'aurai davantage à manger si je vous suis pour faire le chapelet? Me demande un jour un Inuit et un autre. Père, les caribous tomberont-ils en plus grand nombre sous mon fusil une fois que vous l'aurez béni? Que répondre? Est-ce que moi, missionnaire, je dois expliquer la primauté du spirituel à ces Indiens? Cela les dépasse totalement. Faut-il même les reprendre sévèrement quand, après leur baptême, une ânerie leur échappe? Par exemple, Jimmy, ce matin, avait reçu le sacrement de confirmation. Le même soir, jouant aux cartes avec ses copains, il les plume d'un nombre respectable de renards. Donc, il joue des renards sur la table de bridge. Une telle veine, évidemment, n'était pas naturelle, il avait triché. Alors, automatiquement, tout le monde autour de lui commence à murmurer: Oh oui, il est devenu fort, il est devenu fort. Et le mot en inuit pour dire confirmation, c'est ce qui rend fort. Voilà, bon, ben, tout est dit, quoi. Alors, un exemple personnel, moi dans ma paroisse, j'ai une famille musulmane. Elle s'est convertie. Bon, ben, ça n'empêche pas le père de famille d'avoir la main lourde sur sa femme comme quand il était musulman, de ne pas savoir gérer l'alcool. Ça n'empêche pas son fils parce qu'il n'a pas assez été assidu assez au catéchisme, parce qu'on lui a peut-être laissé une liberté qu'il ne pouvait pas gérer, bah, de tomber dans la drogue et de faire de la prison pendant un an. Voilà, donc en fait, en fait, moi, tout ce que je vous dis là depuis le début de nos entretiens, j'essaye d'illustrer la notion de rapport entre la nature et la grâce. Et ça, je pense qu'on l'a trop oublié dans l'Église. On pense que la prière, la bonne volonté, fait tout. Mais non, en fait, c'est vous. En fait, c'est votre âme, elle repose dans une nature. Si votre nature est mauvaise, si vous mangez n'importe comment, si vous vous couchez à n'importe quelle heure, comment vous voulez être des chrétiens debout, quoi? Vous serez forcément, nous serons forcément des loques, hein, si on ne se discipline pas, si on ne mortifie pas notre chair. Hein. Voilà. Promis, je dis plus rien, je réponds juste brièvement s'il faut à des questions, mais je m'arrête là.
Moi, c'était juste une question. Vous nous conseillez quel livre sur l'histoire en soi?
Sur l'histoire.
L'histoire et du coup l'histoire de l'Église.
Ok. Alors, j'ai pas lu L'Église au risque de l'histoire de Jean Dumont, même si je cite cet auteur. Donc, je ne peux pas le conseiller par honnêteté. Bon, évidemment, contre tous les mensonges, les préjugés, Ah mince, je vois plus le. Ouais. Contre tous les préjugés, il faut lire Jean Sévillia, historiquement correct.
Ouais.
Suivi de historiquement incorrect.
Ouais, je connais.
Voilà. Ce livre, si vous le trouvez d'occasion sur Internet, c'est très bien. Une croix sur le Nouveau Monde. Ce sont les actes de l'université d'été de Renaissance catholique. Je crois que ça date de 92, parce qu'en fait, c'était le sujet, c'était la commémoration du 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Et c'est passionnant parce qu'il traite plein de sujets. D'ailleurs, il traite même de l'Afrique, pas seulement de la colonisation, je crois, de l'Amérique. Et à chaque fois, il y a un entretien, question-réponse avec l'auteur. Donc en fait, c'est très facile à lire, très clair. Il y a toujours une partie de débat à la fin. Donc voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous lire sur l'histoire? Jean d'Escola, les conquistadors. Alors lui, il est plutôt favorable à Las Casas, mais c'est pas grave, hein, c'est un historien qui est excellent. Lui, il dit Las Casas était radical, outrancier, menteur, affabulateur, mais peut-être que c'était nécessaire pour faire bouger les rois catholiques de l'époque, pour les amener à considérer un peu plus les Indiens. Bon, comme je vous l'ai montré avec Isabelle la catholique, je pense que c'est une erreur, mais la manière dont il défend Las Casas, quand même, voilà, montre que c'est pas un idéologue. Donc ça, sur les conquistadors, il faut le lire. Il a des phrases magnifiques. Jean d'Escola, il dit, mais comment il dit, on reproche aux conquistadors d'être hypocrites. Ou enfin, voilà, Oui, d'être hypocrite parce qu'il propageait la foi, mais il pouvait mal se comporter. Mais en fait, l'hypocrisie religieuse n'existait pas à l'époque parce que le catholicisme était tout puissant en Espagne. Il n'y avait aucune raison d'être hypocrite. C'était juste des pécheurs comme vous et moi. C'est tout. Et puis parmi les conquistadors, les premiers ermites du Nouveau Monde étaient des conquistadors. Ils ont jeté leurs armes, ils ont jeté leur armure et ils se sont dit, je vais me construire une cabane dans les pins au milieu de peuples qui veulent me manger. Enfin, c'est incroyable, hein. Chez le conquistador, il y a du premier chrétien, du croisé et du missionnaire. Ce sont des figures dingues. Alors lui, c'était le deuxième, le premier ermite, parti avec Cortés. Il s'installe au sommet d'un temple païen transformé en église. Alors je ne sais pas s'il a vécu plus de 2 heures après le départ de Cortés, mais voilà quoi. Alonso de Ojeda, un autre conquistador, il a passé par le fer pas mal d'Indiens, c'était pas un saint. Comment il est mort? Il est mort dans la tenue franciscaine en faisant la manche à la sortie de l'église de Saint-Domingue. Il y avait une église sur Saint-Domingue. Lui, le seigneur Castillan, a fait la manche comme un clochard à la sortie de l'église. Et il est très connu, c'est un des premiers conquistadors. Et il est mort enterré, nu, le torse vers le ciel, sur le seuil de l'église pour que tout le monde puisse le piétiner en entrant dans le temple. Voilà pourquoi je vous dis que c'est une période fascinante, parce que il y a un retour un petit peu à l'esprit des premiers chrétiens et en même temps il y a l'esprit de la croisade chez les conquérants. Donc ça fait rêver. Voilà pour mes conseils de lecture. Également, ça c'est très court, ça se lit très facilement, c'est petit, c'est écrit gros. Isabelle la catholique de Morissette Vial, Vial. Vous allez sur le site de l'éditeur, édition Saint-Jude, Jude. Isabelle la catholique, Morissette Vial, Vial. Voilà, et si le personnage de Cortés ben, vous fascine comme moi, vous savez que Cortés, il était appelé le nouveau Moïse, le saint Paul des Amériques par les franciscains qu'il aimait beaucoup. Eh bien, il faut lire voilà, Salvador de Madariaga, Madariaga, sur Hernán Cortés, ou si ça vous paraît trop gros, vous pouvez lire un auteur français, Cortés, conquérant de l'impossible, par Bartholomé Bénassar, historien toulousain, qui a travaillé autant en Espagne qu'en France, et qui n'est pas un catholique ou un conservateur ou un type qui, voilà, c'est un chercheur honnête qui dit que Cortés est le roi des conquistadors, quoi. C'est un vrai seigneur du Moyen-Âge, c'est un vrai croisé, Cortés. Voilà, ça mérite une conférence à part entière, hein, la conquête, mais je m'arrête là. Et puis, bien sûr, demain, la chrétienté, dont Gérard. Est bon? Bon,
Pense
est-ce que quelqu'un a été choqué, horrifié? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Là, soit vous êtes timide, soit vous êtes tous d'accord, mais c'est pas possible.
Est-ce que j'ai le droit de poser une dernière question ou on n'a plus le temps?
Oui, on a le temps.
Quand on dit en fait, enfin, aujourd'hui on entend souvent que du coup les conquistadors ont en fait massacré les Indiens d'Amérique du Sud en particulier. Et là vous avez dit enfin plus ou moins le contraire en fait dans ce CFA. Du coup, quelle est en fait la part de vérité en fait dans la destruction de la culture indienne à l'époque qu'on
Bah,
attribue aux conquistadors?
y avait des conquérants qui étaient d'une très grande brutalité. Oui, bah, en fait, comme il y a eu des Romains qui étaient d'une grande brutalité, comme il y a eu des seigneurs croisés, même en Terre Sainte, à Jérusalem, bon, bah, qui sont juste partis en croisade pour se tailler des fiefs dans la Terre Sainte. Bon, ben bah, voilà, il y a eu exactement la même chose chez les conquérants. Et toute notre vision de l'histoire américaine, elle est fondée en fait sur le témoignage de Bernal, de Las Casas, qui exagère, qui prend des exemples isolés. C'est comme si je vous disais que l'Église était une secte pédophile parce qu'il y a plein de scandales depuis des années de pédocriminalité. Voilà. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans dans les médias, on n'entend parler que de ça, en fait. C'est exactement la même chose. Donc il y a une part de vrai, en fait, que moi je ne nie pas. Mais évidemment qu'il y a eu des atrocités. En fait, il ne s'agit pas de nier le vrai. Très souvent, vous savez, les propagandistes, qu'ils soient conscients de leurs mensonges ou non, enfin nos adversaires au sens général, ben, ils entourent leurs mensonges de plein de vérités, de plein d'éléments de vérité. C'est évident. Donc, voilà. Donc, oui, il y a eu des brutalités excessives, mais parfois, il y a des brutalités qui sont légitimes. Et en fait, là, on rentre dans un sujet philosophique. C'est pour ça que je vous ai cité Saint Thomas. D'ailleurs, il y a un article. Alors, voilà, alors ça, lisez-le. Parce que, en fait, finalement, la question là que vous me posez, c'est la question de la force et de la violence et jusqu'où on peut l'utiliser. Eh bien, je vais essayer de vous mettre en lien là tout de suite un article, La vertu de courage et de force, du père Blinière de Saint-Vincent-Ferrier, H.C. Méret. Je ne sais plus où on trouve ça. Je crois que c'est sur Notre-Dame de Chrétien. Non, pas Notre-Dame de Chrétienté. Vertu de courage, force, violence. Comment ça s'appelle? Il y a un site de formation, la Salve Regina. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais essayer de vous retrouver ce texte et de vous l'envoyer. Je crois que c'est force et violence dans la pensée chrétienne. Donc, oui, il y a des bonnes guerres. Oui, il y a des guerres qui sont justes. C'est saint Thomas qui le définit. Et là, Don Gérard en parle. Là-dessus, il faut vraiment lire Don Gérard devant la chrétienté. Donc, oui, il y a eu des cas d'atrocité, il y a eu des cas de brutalité. Bon, enfin, bon, voilà, pas plus qu'ailleurs. Et puis, il faut étudier l'histoire aussi, savoir que les conquérants arrivent dans un pays, ils sont appelés par les Indiens. En fait, Cortés, il arrive, il est à la tête d'une armée de 500 personnes. Un an après, ils sont, je crois, 10 à 15 000 à marcher avec lui contre les Aztèques. En fait, il arrive dans un Mexique en pleine guerre civile, Cortés. Et c'est comme ça de partout. Pizarre, chez les Incas, c'est pareil. Les Indiens, les Français au Canada, c'est pareil. À chaque fois, ils arrivent dans des sociétés ultra violentes et ils choisissent telle ou telle tribu pour soumettre les autres et imposer la paix à tous.
Ouais, d'accord.
Si je vous retrouve ce texte, il est fondamental. Je vous l'envoie. En tout cas, je peux
Alors,
vous le dire.
j'ai le lien si vous voulez, je peux le mettre dans le.
Alors, il y en a plusieurs. Mais
Ah,
vas-y,
ok,
mets-le.
peut-être.
Non,
Ok.
non, mais vas-y.
Bah, c'est sur le site de la fraternité Saint-Vincent Ferrier.
Le courage. Ouais. Quel est le nom de l'article?
Force et violence dans la pensée chrétienne.
Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est un extrait de leur revue, Cedes Sapientiae.
Ouais.
Non, voilà, donc sur les atrocités, enfin sur les difficultés des conquistadors, sur ces sujets-là, voilà, il faut lire Jean d'Escola. Et puis Jean Sévia, il consacre tout un chapitre à l'Espagne catholique. Et il y a une suite, hein, il y a historiquement correct et il y a historiquement incorrect.
Ok, ça marche.
Mais je pense que de manière générale, c'est notre rapport à la force. En fait, il faut voir ça, il faut aller à la racine. Mais moi, je donne deux conseils. Un, ne jugez pas le passé avec les yeux du présent. Parce qu'en plus le présent, ça fait pas rêver. Essayez de comprendre pourquoi pas mal de ces conquérants qui ont pu se montrer brutaux n'ont pas été damnés, n'ont pas été, enfin, n'ont pas été excommuniés, n'ont pas été mis à la porte de l'Église. Alors certains, oui, c'est-à-dire qu'il y a des évêques qui ont dit à certains encomenderos, à des propriétaires d'Indiens, bah, tu les empêches d'aller à la messe, tu les fais travailler durement, donc tu seras excommunié. Cortés a fait des procès à des seigneurs qui traitaient mal leurs Indiens. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans le piège. On ne va pas opposer un mensonge à un autre mensonge. De toute façon, la vérité, elle est grise. Voilà. Mais en l'occurrence, au sujet de l'épopée des conquistadors, elle est aussi magnifique et exaltante parce que c'est des gens qui ont tout risqué, absolument tout, et qui sont partis sans retour. Et c'est le cas de le dire, certains sont jamais retournés. Et il y a une minorité de conquérants qui a fait fortune, hein. La plupart sont morts, hein, sur place, hein. Diane, vous êtes la fille d'Olivia?
Vincent et Olivia, ouais, c'est ça.
Ah, super, génial. Vous vous rappelez de moi ou pas?
Ouais, bien sûr.
Bon, je suis content de vous savoir là. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire?
Que vous nous donnez les trois questions ou vous abandonnez?
Ou j'abandonne? Ah non, moi j'abandonne jamais. Alors, trois questions. Trois questions. Ben voilà, c'est une question assez ouverte. C'est pas un travail. Je vous demande. Bon, alors déjà, est-ce que la conf est enregistrée et est-ce que vous pouvez la réécouter avant la prochaine fois?
Oui.
Ok. Alors, ben j'aimerais que vous me disiez quelle est la phrase la plus marquante pas forcément la mienne, je peu importe, mais la phrase la plus marquante de l'entretien. Qu'est-ce qui vous semble le plus important à retenir? Quelle est la phrase la plus importante à retenir dans tout ce que j'ai dit? Voilà, qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, je pense que ça sera peut-être pas la peine de tout réécouter, normalement ça vous a marqué. Voilà. Donc que chacun me dise un petit peu ce qu'il a retenu, je serais voilà, la phrase la plus marquante, la plus illustratrice de mon propos. Donc ça, c'est une demande que je vous fais. Ensuite, question plus de cours. Quelle était la volonté de Isabelle la Catholique en organisant la découverte de l'Amérique? Ensuite, quel était l'objet de la controverse de Bayadolid? Quelle était la question posée?
Vous pouvez redire cette question, s'il vous plaît?
Voilà, et puis enfin, ouais, quel était l'objet de la controverse de Bayadolid? Quelle est la question posée aux participants de cette controverse, c'est-à-dire de ce débat? Sur quoi les juges de Valladolid se sont-ils interrogés? Quel est donc le véritable objet du débat entre Juan de Sepúlveda et le fameux Las Casas? Voilà. Et puis, oui, quel est Ouais, en fait, quelle est l'importance missionnaire de la messe pour les conquistadors et pourquoi c'est important? Mais vraiment, je pense qu'il faudrait faire suggérez-le à votre au PFS une conférence sur la conquête de l'Amérique, sur la colonisation de l'Amérique, mais vraiment juste là-dessus. Je pense que c'est important quand même, hein. Parce que vraiment, par l'histoire, vous allez gagner. Y a pas de meilleur maître que la connaissance du passé. Et parce que c'est le sujet qui touche à toutes les polémiques actuelles, les notions de tolérance, de liberté, de violence, de respect de l'autre. En fait, toutes ces questions-là, on se les est posées 500 ans avant notre époque, hein. On n'a rien inventé. Voilà. Donc le
Merci
prochain,
beaucoup.
bah de rien. Donc le quatrième sujet, c'est l'évangélisation, enfin les cas que j'ai pas trop abordés, notamment le cas français au Canada. Et puis là, ce sera plus ouvert, donc plus court aussi, promis. Oh, il est 21h41, je tiens pas mes promesses. Pardon. Sur les enjeux de la mission aujourd'hui. Alors d'ailleurs, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, voilà, une dernière demande, préparer déjà des questions pour la prochaine fois, et vous pouvez me les soumettre comme ça, moi, d'avance. Je me dis, ok, on m'a posé telle et telle question, il ne faut pas que je parle trop longtemps sur mon truc pour que je puisse lui répondre. Donc si vous pouvez m'envoyer par écrit toutes les questions par courriel, peut-être que Capucine, tu peux centraliser, et comme ça, voilà, voilà, je pourrais vous répondre.
Est-ce que vous pouvez redonner le thème de la semaine prochaine, enfin de la prochaine séance?
En gros, c'est l'évangélisation française, surtout un peu en Afrique, mais surtout en Amérique, au Canada. Enfin, en Afrique quand même, hein, bien sûr, c'est même plus important que le Canada. Bon, bref, l'évangélisation française en Afrique et en Amérique, mais ce sera bref. Et puis, les enjeux actuels de la mission, de l'évangélisation. Voilà, réflexion un petit peu sur l'évangélisation en France aujourd'hui. Donc là, ce sera moins court, ce sera plus libre. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait une discussion. Ce serait intéressant. Donc, alors je repose une dernière fois la question pour être sûr. Vous êtes tous d'accord avec la vision que je vous ai présentée ce soir? Il n'y a pas des réfractaires. C'est pas pour
Oui.
relancer le débat, mais c'est peut-être pour en parler la prochaine fois, pas ce soir.
Peut-être que d'ici la prochaine fois, on aura plus de questions.
Très bien.
Moi, je suis d'accord avec vous.
Très bien.
C'est un sujet
Ok.
qui est quand même un peu méconnu. Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas du tout étudié ça à l'école ou quoi, donc je ne peux pas
vous contredire sur ça.
Ouais, tout à fait. Tout à fait, j'entends bien. Voilà. Très bien. Bon, ben, alors on se voit le 20 janvier. C'est ça?
En janvier. On n'avait pas
Ouais,
déterminé de date en janvier.
je crois que c'est un samedi le 20 janvier.
Ok.
On n'avait
Et
pas déterminé de date.
ok, bon, bah alors je fais ça avec le père.
Ouais, très bien.
D'accord. Si quelqu'un a des questions qu'il ne m'a pas, enfin qu'il aurait voulu me poser ou qu'il n'a pas osé ou je ne sais quoi, ou des choses qui lui reviennent ou une remarque à me faire, qu'il n'hésite pas surtout. Capucine, donc je t'autorise à donner mon adresse courriel à tous ceux qui le souhaitent.
Bah,
Ça
faut venir
marche?
vers moi, hein, du coup, si vous voulez le mail. Je ne vais pas venir à vous.
Non,
Oui,
mais
pardon.
c'est bête. Non, mais je vous le donne. Non, mais je vous le donne maintenant. C'est débile. Alors, Jules Angela, JULANGELA, GE2LA, @gmail.com. Jules Angela, JULANGE2LA, gmail.com. Bonne soirée. Dieu vous garde. Bon et saint Noël à vous et à vos familles.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
Bye.
Merci,
Merci beaucoup.
monsieur.
Bonne
Joyeux
soirée.
Noël.
Merci beaucoup.
Joyeux Noël.
Merci. Joyeux Noël.
Merci.